Rendez-vous, citoyens! Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien.
PP 106.3 FM, émission Rendez-vous citoyens. On est content de vous retrouver sur Rendez-vous citoyens. Vous savez, une émission qui s'intéresse à tout à chacun, collectif, association, individu, engagé souvent au niveau local dans des enjeux de transformation sociale. Et aujourd'hui, le titre de l'émission, Maîtriser les écrans. Maîtriser les écrans, en fait, il s'agit d'une émission un peu particulière, puisqu'on vous propose d'écouter un ensemble d'interviews qui se répondent, qui ont été réalisées par mes soins à l'occasion du colloque « Maîtriser les écrans » du 30 avril 2014, un colloque qui a eu lieu à la mairie du 19e. Un colloque très intense, très riche en débats, qui a duré plus de 10 heures, qui a rassemblé une quinzaine d'intervenants, des universitaires, des philosophes, des psychologues, des professeurs, des parents d'élèves, des professeurs, certains collégiens, voilà, étaient présents à ce colloque. Bernard Stiegler, philosophe, Sabine Duflo, psychologue, Bruno Harlet, psychiatre, Christine Paulsen, conseillère pédagogique sur le Michigan, il venait aussi de loin. Elisabeth Baton-Hervé, auteur de livres et articles sur la publicité aux enfants. Hervé Kempf, journaliste spécialisé en écologie, auteur de l'article « La télé, c'est violent ». Raphaël Riobé de l'EDL du 19e, des parents d'élèves, donc comme je disais, des professeurs, des collégiens. Mais donc aussi à cette occasion était présent un ensemble d'autres intervenants que nous avons, qui sont prêtés au jeu de nos interviews. Donc il s'agit de Jacques Brodeur, professeur de sport à la retraite, à l'origine justement des projets Semaines sans écran et à l'origine avec d'autres personnes du colloque Maîtriser les écrans. Canadien, Anne Lefebvre aussi, donc, est venue sur nos interviews, parent d'élèves sur l'école Manin, Paris 19e, Lamine Mouldaya, directeur de l'école Manin, Sophie Géel, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8, ex-membre du CSA, conseil supérieur de l'audiovisuel, Loïs Bonneau, professeur de lettres classiques, blogueur sur lavimoderne.net, Héloïse Junier, psychologue en crèche, journaliste en presse écrite, et Christian Gautelier, président du collectif d'association Enjeux immédiats et responsable au sein des CEMEA du pôle Média, Éducation critique et citoyenneté. Voilà, tout ça. Donc, ça a été l'occasion de s'interroger donc, sur l'utilisation et des écrans par les enfants et les adolescents. Et nous tous, finalement, et de s'interroger sur les enjeux économiques, les stratégies de marketing qui sont mises en place dans ce cadre, également aussi sur les questions éducatives ou encore de prévention, sur la question encore de l'image et des outils numériques à l'école, et tout ça aussi en témoignant d'un certain nombre d'expériences de terrain autour du projet Semaines sans écran. Donc, je donne la parole à nos invités. Pour commencer, nous donnons la parole, je viens de le dire, à Jacques Brodeur, à l'origine donc de ces semaines sans écran, dans des écoles du Canada et de France. Jacques Brodeur, je l'ai déjà indiqué, qui est à l'origine aussi de ce colloque, aux côtés de Anne Lefebvre, parent d'élèves de l'école Manin sur le 19e, et M. Lamine Mouldaya, directeur de la même école, que vous entendrez tout de suite après.
Je vais vous demander, comme à tout le monde, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Mon nom est Jacques Brodeur. Je travaille à libérer les enfants des écrans depuis maintenant 25 ans. La libération des écrans, c'est comme la libération de n'importe quoi d'autre. y compris de la cigarette, de l'alcool ou de n'importe quelle dépendance. Et pour l'enfant d'aujourd'hui, les mécanismes utilisés pour capter leur attention ont tellement d'emprise sur eux que, imaginez un monde où il n'y a plus ces écrans, ils ont l'impression, la même impression que quand quelqu'un pensait que la Terre était plate puis qu'on tomberait en arrivant au bout. Ils pensent qu'il n'y a pas de vie en dehors des écrans. Je suis Québécois, j'ai enseigné l'éducation physique et le sport durant plus de 35 ans. Et en 1986, je découvre que les émissions les plus populaires chez les enfants sont aussi les plus violentes. Elles s'appellent, à l'époque, G.I. Joe et Transformers. Et partout dans les pays où l'émission était diffusée, les deux émissions étaient diffusées, quand on voulait savoir ce qu'on allait offrir en cadeau aux enfants pour Noël, bien on leur apportait des G.I. Joe et des Transformers. C'est cette stratégie publicitaire qui m'a dégoûté, à tel point que je me suis dit, s'il y a des gens qui utilisent leur intelligence pour fomenter des complots semblables pour abuser des enfants, bien, il reste une contrepartie à développer. Ce sont des citoyens qui donnent aux enfants le pouvoir de refuser cette forme de manipulation. Au début, ça a commencé par des moyens variés, et c'est en 2003 seulement qu'on a inventé, avec des collègues toujours, hein, le défi des 10 jours sans écran. Quand on réduit le temps que les enfants passent devant l'écran, mais le nombre de scènes violentes, le nombre de messages publicitaires, le nombre d'insignifiances et d'imbécilités auxquelles on a recours pour les garder devant l'écran, mais quand on diminue le temps écran, bien, on diminue ça d'autant. Et depuis 2003, on ne fait que marquer des points. Le projet a marché au Québec de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et en 2008, une première école de France à Strasbourg, en Alsace, a tenté l'expérience. Et les résultats ont été tout aussi positifs que ceux obtenus en Californie par le Dr. Robinson et que ceux qu'on avait obtenus au Québec avec le défi 10 jours sans écran. Ils ont préféré appeler le projet à Strasbourg 10 jours pour voir autrement. Aucun problème, on change le nom comme on veut. À Herblay, on appelle le projet J'ai du cran, j'éteins l'écran. Comme tu vois, c'est associé à une décision de courage. Et ailleurs, ça change de nom. Alors, partout, les résultats sont formidables. Augmentation du temps de conversation avec leurs parents. Augmentation du temps consacré à l'activité physique et au sport. Les enfants sont trop longtemps assis. Nos enfants modernes sont trop longtemps sédentaires. Et troisième, plus de temps consacré à la lecture. Ne serait-ce que pour ces trois résultats, il faut absolument que ce projet connaissent de l'ampleur. On est rendu à l'heure où on se parle à 180 écoles en France qui ont fait goûter cette potion-là à leurs élèves. Il faut donc poursuivre et augmenter. Et c'est pour ça que le colloque d'aujourd'hui servait à faire le point et à tirer de chacune des expériences vécues éparses, hein, éloignées les unes des autres, que tous les acquis de ces projets-là soient mis en commun pour être capables d'être partagés et de pouvoir être transmis à des écoles qui n'ont pas encore vécu d'expérience.
Très bien. Est-ce qu'il s'agit aussi, par des colloques, d'interpeller, par exemple, les pouvoirs publics ou d'interpeller la société? Et faire quoi de cette réflexion?
Alors, faire quoi de cette réflexion? Vous parlez à un homme qui, de 1990 jusqu'à l'an 2000, donc durant 10 ans, j'ai dépensé presque toutes mes énergies à m'adresser aux pouvoirs publics. Avec des mémoires, des pétitions, des reportages, des conférences. Et je me suis rendu compte que le pouvoir, il n'était pas là. Je m'adressais à des gens qui ne pouvaient pas m'écouter. Le moindrement, un homme politique aurait-il voulu réglementer ou encadrer la promotion télévisuelle, il aurait été crucifié immédiatement. Il aurait été qualifié de propagateur de la censure. J'ai donc compris seulement en 2000 et en 2001 que le pouvoir, il était chez les enfants, chez leurs parents, chez les enseignants. C'est pour ça que ce projet, maintenant, c'est un projet scolaire. Et un jour, il y aura tellement d'écoles qui y auront participé que sur les pouvoirs publics, il n'y aura aucun autre choix que de bouger dans le sens favorable à l'intérêt des enfants.
Moi, je suis Anne Lefebvre, je suis parent d'élèves au 40 bis Manin, où il s'est déroulé tous les ans, une semaine sans écran, à l'initiative de Charlotte Marin, qui a lancé le défi en 2009. La semaine sans écran dans l'école 40 bis maintenant, ça consiste en demander de lancer un défi collectif sur l'ensemble des classes de l'école, du CP au CM2, où on demande aux enfants de remplir un carnet de bord journalier où ils vont relever en famille le soir ce qu'ils ont consommé comme écran et ce qu'ils ont gagné ou pas gagné des points en réussissant à s'abstenir. Alors, dans les écrans, on inclut jeux vidéo, tablettes, ordinateurs, iPad, téléphone portable, télévision. Les maîtresses relèvent quotidiennement les points. Et donc, nous, c'est une semaine sans écran. Donc, à la fin, on calcule le nombre de points collectivement sur l'ensemble du groupe scolaire.
Pour résumer, je crois que c'est aussi un moment d'émulation, un moment de rencontre, un moment d'activité autre aussi proposé par des associations alentour qui prennent le relais un peu des temps laissés libres en sortie scolaire ou le mercredi. On en arrive à ce colloque aujourd'hui. Comment il est né ?
On savait que Jacques Brodeur allait venir en France puisqu'il travaillait avec différentes écoles de province. Et donc, on lui a demandé de venir au moins parler aux enseignants. Là, c'était une façon, au fond, de se dire, on n'est pas tout seul, on va réunir des gens. Et puis, ça a dépassé un petit peu notre espérance parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de monde qui ont répondu à l'appel très, très facilement. Et on s'aperçoit qu'on est beaucoup à se pencher sur ces questions-là. C'était tout à fait de prendre le temps toute une journée d'aborder le fond dans son aspect psychologique, santé psychique, santé mentale, dans son aspect sociologique, dans son aspect pratique, dans son aspect éducatif aux médias et aux écrans. Nous, notre enjeu localement, c'était aussi d'impliquer davantage la municipalité pour donner plus d'ampleur, c'est-à-dire pas se contenter de trouver des petits financements pour des associations, mais de faire à ça, pourquoi pas l'échelle du 19e, mais surtout d'utiliser bien mieux des ressources locales mobilisables sur des choses de plus grande ampleur, qui soient plus simplement portées par quelques parents.
Bonjour, je m'appelle Lamine Mouldaya, je suis le directeur de l'école élémentaire au 40 bis rue Manin dans le 19e.
On est sur un colloque à la mairie du 19e, un petit peu finalement à votre initiative ?
Alors, en partie à mon initiative, en fait, c'est un comité d'organisation qui s'est mis en place avec d'abord Jacques Brodeur, celui qui a inventé les défis sans écran, avec Anne Lefebvre, représentante des parents à l'école, et moi-même. Un moment, l'idée a germé autour de la semaine sans écran, de se dire, et si on poussait la réflexion, et puis si on organisait un colloque. Alors nous avons un passé, puisque c'est la cinquième année consécutive qu'on organise une semaine sans écran, et puis nous voulions aller voir plus loin. Et puis, au bout de 5 ans, il fallait faire un bilan et la nécessité d'une réflexion approfondie sur les dommages des écrans, sur la nécessité du réduction de temps à écran, nous est apparue comme incontournable.
Revenons un tout petit peu sur l'expérience sur votre école 40 bis rue Manin. Finalement, au bout de 5 ans, on peut faire un petit bilan. Est-ce qu'il y a vraiment matière à développer et pourquoi ?
Ce que j'ai toujours défendu, moi, en tant que directeur d'école, c'est le projet commun, la coéducation parents-enseignants et les projets communs entre les parents et les enseignants. Et ça, c'est très porteur. C'est très porteur parce que ce projet, comme vous l'avez dit, dans le comité d'organisation, il y a des parents, il y a le directeur, il y a Jacques Brodeur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fédère la communauté éducative. Et pour nous, ça, c'est très, très important. On peut dire qu'on réfléchit plus. Justement, on a fait longtemps cette semaine sans écran en proposant cette semaine comme un défi, comme une semaine un peu ludique. Et là, pour la première fois cette année, on commence à aller au-delà, à réfléchir plus, à trouver en effet, comme on l'a vu dans le colloque, des activités en amont, mais aussi des enseignants qui vont proposer des activités après la semaine sans écran. On va reparler de l'addiction aux écrans après cette semaine. Et ça, c'est une nouveauté. Et c'est très important. Et puis, je pense que ça va nous amener à chercher d'autres pistes.
Effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est ce que j'ai indiqué à Anne aussi, c'est qu'un colloque comme ça permet de rassembler les forces en présence, de faire un bilan, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur ces sujets, qu'il y a une vraie question prise en charge par des tas de personnes dans la société, qu'ils soient au niveau des pouvoirs publics, au niveau des médias, au niveau des universités, que c'est un sujet d'actualité. D'actualité dont on n'entend peut-être pas assez parler.
Exactement, c'est la première fois qu'on réunit des neuroscientifiques, des psychologues, des enseignants, des gens de tous bords, des gens sont venus de toute la France pour assister à ce colloque-là. En fait, il y a une véritable demande, parce que quand Jacques Brodeur, et ce n'était pas prévu, Jacques Brodeur a demandé à toutes ses connaissances, est-ce que vous voulez intervenir au colloque ? On pensait que la moitié répondrait oui. Ils ont tous dit oui. Ils ont tous dit oui, ce colloque a duré plus de 10 heures, parce qu'il fallait que chaque intervenant puisse en effet donner son avis. Donc ça a été un succès incroyable. Donc c'est la preuve qu'il y a une nécessité d'échanger entre, comme vous l'avez dit, les différents partenaires scientifiques, politiques, ceux de l'éducation, sur ce thème qui, finalement, vous allez le voir, va prendre de plus en plus d'ampleur dans la société.
Merci Lamine Mouldaya, directeur de l'école Manin, que l'on vient d'entendre donc après avoir entendu Jacques Brodeur à l'origine des semaines sans écran au Canada et en France, et Anne Lefebvre, parent d'élève sur l'école aussi Manin. Donc vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, sur l'émission Rendez-vous citoyens. Aujourd'hui, nous rendons compte d'un colloque qui a eu lieu en mairie du 19e, le 30 avril 2014, « Maîtriser les écrans », qui s'interrogeait avec un grand nombre d'intervenants durant toute une journée sur l'utilisation des écrans par les enfants, par les adolescents et finalement par tout un chacun. Après cette introduction donc sur les raisons et l'origine du colloque, on entre dans le vif du sujet avec une diversité de points de vue sur la question des écrans et de leur utilisation. Donc. Écoutons d'abord Sophie Géhel, professeure d'université, ex-membre du CSA. Dans un premier temps, elle évoque avec nous la question de l'autorégulation du net et ses raisons. Et plus tard, elle parlera de l'autorité médiatique.
Sophie Géhel, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8. J'ai un parcours un petit peu particulier qui explique aussi mon positionnement sur les écrans. C'est que j'ai travaillé pendant 15 ans au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Puis ensuite, j'ai enseigné dans les lycées. Maintenant, j'enseigne à l'université. Voilà. Donc, je suis chercheur. Et ce qui me semble important pour la recherche, c'est de rester en lien avec la société civile. Donc, j'avoue que j'étais particulièrement intéressée par ce colloque qui émane vraiment de la société civile. Pour moi, c'est assez rare en France. Et je pense que la recherche a tout à gagner à rester en lien avec le public et le public qui s'organise, qui essaie de réfléchir à ce qui lui arrive. C'est vrai que ce qui se passe depuis le développement du web, donc du numérique, c'est une dérégulation, en fait, des contenus. C'est-à-dire que c'est pas non plus tout à fait un hasard que la société civile se mobilise ponctuellement. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas de politique nationale sur ces questions, ça ne peut être que des mobilisations ponctuelles. Ce n'est pas un hasard, parce qu'en réalité, c'est aussi un choix politique. Le choix politique qui a été fait, c'est celui de l'autorégulation pour le web. Autorégulation des plateformes, donc autorégulation de YouTube, autorégulation de Facebook, des Skyblog, etc. Autorégulation donc des grands opérateurs du web et autorégulation aussi des parents et de la société civile. Donc en fait, c'est une demande qui est faite de la part des pouvoirs publics que la société civile s'organise elle-même. En France, c'est un vrai problème parce que ça n'a jamais fonctionné comme ça. L'État a toujours été a toujours été considéré comme devant avoir un rôle de régulateur. Et là, sur le web, il ne joue plus ce rôle-là. Ça pose beaucoup de problèmes. La question de l'intervention des pouvoirs publics sur le web et le rôle de la régulation par les pouvoirs publics du web est particulièrement difficile à poser parce qu'il y a deux grandes forces politiques qui sont opposées à cette régulation. D'une part, les opérateurs médiatiques eux-mêmes, parce que les opérateurs du web sont des opérateurs commerciaux et sont des opérateurs principalement nord-américains. Or, dans la tradition juridique américaine, la liberté d'expression prime sur beaucoup d'autres considérations. Et en tout cas, l'État n'y a pas le rôle de régulateur. Et d'autre part, effectivement, la communauté du web, c'est-à-dire cette idéologie libertaire du web, qui est quand même principalement nord-américaine, du moins d'inspiration nord-américaine, qui est en phase, je dirais, avec la culture américaine et qui pose un problème dans la culture européenne parce qu'on n'a pas justement des grandes associations dans la société civile qui soient capables de mobiliser véritablement. Donc le retrait qui se passe sur le web, le retrait politique sur le web est quelque chose qui nous met, nous les les Européens dans une situation assez, assez difficile à gérer.
Un autre aspect, la loi Hadopi, la communauté web a senti ça comme une intrusion.
Vous voyez, vous citez Hadopi, c'est-à-dire que dès qu'il est question de droits d'auteur, à ce moment-là, les opérateurs commerciaux ont été favorables au contrôle du web. Et on a mis en place des systèmes, même sur YouTube, il y a des systèmes de watermarking, etc., qui permettent le respect des droits d'auteur qui sont et du copyright, et qui sont principalement des droits commerciaux. Sur la question de la diffusion des contenus haineux, antisémites, racistes, qui sont quand même à profusion sur les grandes plateformes, sur la question des images pornographiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont aussi extrêmement banalisées sur toutes les plateformes, là, on ne retrouve pas d'alliance entre les pouvoirs publics. Il n'y a pas une impulsion qui soit donnée du côté du commerce, au contraire. Et à ce moment-là, on se retrouve assez seuls, les éducateurs ou ceux qui veulent, ou les chercheurs qui souhaitent défendre un point de vue éducatif. On se retrouve en porte-à-faux ou en opposition avec à la fois les anarchistes, je dirais libertaires, et les opérateurs commerciaux qui, eux, au contraire, ont intérêt à la diffusion de ces images.
On veut bien réguler les flux financiers et contrôler les mouvements financiers qui tournent autour du web, et éventuellement pour que ça retourne dans les bonnes poches, mais surtout pas envisager de réguler ce qui peut se dire, ce qui peut se montrer, pas trop réfléchir à tout ça, finalement.
Pas gêner, on est dans une optique libérale, donc il faut pas gêner, c'est le mot d'ordre des pouvoirs publics au niveau européen comme au niveau français, il faut pas gêner la croissance économique. Si la croissance économique est portée par les images trash ou par le défouloir, on va dire le déversoir sur Internet de tout et n'importe quoi, eh bien les pouvoirs publics ne se sentent pas aujourd'hui la légitimité d'aller contre cela dès lors qu'il n'y a pas des intérêts commerciaux qui soient en jeu, vous voyez. Or, je pense que c'est une grande faiblesse. Je pense que c'est vraiment une vision à très court terme, très court-termiste. Toute la richesse et toute la logique éducative européenne a été que les États ont participé à un processus que Norbert Elias appelait la civilisation des mœurs, c'est-à-dire le contrôle des violences individuelles sur les espaces publics. Et je pense qu'au contraire, ces dérégulations sont en train de mettre à mal ces formes de, ce processus de civilisation des mœurs.
Jeux les plus malsains,
oh oui, j'en veux.
Allez, enfermez-les jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer, qu'on les voit mourir, éjecter, lyncher pour le pire. La cage au milieu du salon aime à voir les fauves tourner en rond et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique, allez, saignez-vous donc en musique.
Donnez-nous du lys, de la guimauve ou du réglisse, donnez de l'image à bouffer, pré-mâcher et prédigérer.
Donnez-nous du vice, surgelez nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sortez-les, 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 sortez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
La thune qui vaille, noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à
éclater.
Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair, blindez des plus beaux apparats, excitez-nous. Rendez vos sponsors, à tout bout de champ, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs,
empêchez-nous de partir.
Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service, allez séquestrer nos esprits, et souriez, tout est permis.
Tirez vers le bas, ma télévision adore ça, et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiot en est devenu fou.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir, conservez votre mauvais goût.
Donnez-nous du pire, passez notre envie.
réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez cracher nouveau millésime. Je suis accro.
Sortez-les du groupe Trio, une chanson d'à propos, je pense, par rapport à notre émission autour du sujet maîtriser les écrans, à la suite d'un colloque du 30 avril 2014 en mairie du 19e. Nous écoutions juste avant le groupe Trio Sophie GL qui nous parlait de la question de l'autorégulation sur le net qui pose quelques soucis dans les habitudes de. L'habitude culturelle européenne par rapport à la régulation des médias et du défouloir que peut être les médias parfois. Et à la suite, elle évoque un autre aspect tout à fait différent, la question de la norme et notamment la norme vis-à-vis des images de la violence en rapport à la jeunesse, à la question de la jeunesse et des écrans. Et elle parle aussi donc de l'autorité médiatique. On écoute de nouveau Sophie GL.
Dans l'étude que vous avez faite, vous parlez du lien avec la norme ou de l'importance de la norme chez les adolescents et de l'importance de la norme, finalement, celle des jeux plutôt violents pour les garçons.
Alors, ce que j'ai découvert dans l'enquête parents médias qui éduquent les préadolescents, c'est que il se passait une inversion des normes. C'est que dans les collèges ZEP, les préadolescents étaient en train de construire une norme de goût culturel autour des produits violents, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, etc. Une norme, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il est normal de regarder, d'aimer ces films, d'aimer ces contenus violents. Et quand je parle d'inversion de la norme, c'est que ce qui m'a frappé, c'est qu'en CM2, on avait une certaine homogénéité en fait entre les différentes écoles et quels que soient les recrutements sociaux. En revanche, à partir de la 6e, il y avait une nette différenciation entre les collèges ZEP et ceux qui n'étaient pas ZEP. Dans les collèges ZEP, se renforçait ce sentiment que aimer les contenus violents, c'est la norme. Donc la construction d'une norme de goût culturel, mais on sent bien que ça va au-delà du goût culturel, autour de la violence. Alors que dans les collèges non ZEP, les garçons avaient tendance à diminuer leur goût pour les contenus violents. Donc on a un croisement, si vous voulez, entre le poids de l'autorité médiatique, qui valorise, hein, qui promeut énormément des contenus violents, et la faiblesse éventuellement des régulations parentales. Quand on est dans des établissements qui sont peu mixtes, eh bien plus les adolescents grandissent et plus le poids de l'autorité médiatique s'accentue.
Autorité médiatique, vous entendez quoi par là? Et alors l'autorité médiatique promeut la violence pour vous?
Bon, c'est compliqué, c'est réducteur. Hein. Je parle des médias en général. Parfois, j'ai des interlocuteurs qui m'ont dit « Oui, mais France Culture, c'est pas du tout ça. » Bon, on est d'accord. Je parle des grands médias, des masses médias, des médias qui visent l'audience la plus large. Et on peut dire qu'ils ont une autorité médiatique. Hein. Si on voulait en avoir une idée très simplifiée, c'est vu à la télé. Hein. C'est la promotion par le fait de passer à la télévision, le fait de montrer un objet à la télévision lui donne une valeur supplémentaire. Donc l'autorité, hein, c'est ça, c'est ce qui accroît le pouvoir, la valeur. Quand je dis que l'autorité médiatique va promouvoir les contenus violents, c'est en me fondant sur des études sur les bandes-annonces et la promotion des films à la télévision. Ça va être les films qui sont les films d'action qui vont avoir le plus de bandes-annonces. Donc ça fait partie du discours tenu par l'autorité médiatique. S'il y a une offre de comédie sans violence, la comédie va être le programme qui plaît le plus aux gens. Hein. Donc il n'y a pas un goût de la population qui soit particulièrement porté à la violence. Mais il se trouve que la violence a une efficacité de l'image. Hein, et donne, voilà, elle, d'abord, c'est les programmes que les Américains exportent quand même le plus. Hein, et le cinéma qui est diffusé à la télévision, c'est quand même beaucoup, même en France, c'est quand même beaucoup du cinéma américain. C'est le cinéma parmi les plus violents. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de film français violent, mais c'est aussi celui qui est promu. Donc on observe, pour les jeux vidéo, vous ouvrez n'importe quel magazine de jeux vidéo, vous pourrez constater que la violence est présentée comme étant une valeur du jeu. Hein, c'est dans les arguments extrêmement récurrents de l'industrie elle-même. Donc, voilà. En Europe, l'industrie du jeu vidéo tient un double discours. D'une part, elle a mis en place, sous la pression de la Commission européenne, le système PEGI, donc avec les âges, et donc avec des conseils qui sont donnés aux parents sur l'utilisation des jeux vidéo. Mais dans le même temps, les jeux qui sont les plus promus sont les jeux violents, sont les jeux les plus violents. Et plus on est tourné vers un public de passionnés de jeux, et plus ce sont les jeux les plus violents dans lesquels les effets spéciaux vont être les plus efficaces, les plus extraordinaires, etc., dans lequel, si vous voulez, l'industrie mise le plus. C'est un choix, on va dire, à la fois stratégique, industriel et idéologique.
Cette identification à une norme qu'on se crée pour les adolescents, c'est finalement pas une histoire assez ancienne où on prend de toute façon des modèles d'opposition, des modèles de transgression des limites. Et est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est pas les jeux vidéo et la violence qui va avec qui jouent ce rôle de transgression?
Moi, ce que j'ai observé sur les préadolescents, c'est que ceux qui vont afficher le plus un goût pour les contenus violents, ce sont des enfants qui vont dire que leurs parents aiment ces contenus. C'est-à-dire, c'est pas dans la transgression, mais c'est beaucoup plus dans la filiation. Un des résultats aussi de mon enquête, c'est de montrer que les enfants, les préadolescents, qui refusent, par exemple, de suivre la signalétique, que ce soit pour les jeux vidéo ou la télévision, etc., c'est pas du tout parce que ils s'intéressent à cette signalétique et qu'ils veulent la transgresser. C'est parce que, au contraire, ça ne les intéresse pas, parce qu'ils aiment la violence. C'est une relation qui me paraît pas passer par la transgression. Et un autre programme dont j'ai pas parlé dans ce livre, mais qui me semble poser un grand problème, c'est la télé-réalité, dans lequel la transgression est présentée comme une norme. Le fait de trahir ses amis, le fait de d'écraser les autres, mais aussi de déglinguer les autres, hein, de faire ce qu'on avait toujours appris dans une éducation européenne. On avait toujours appris aux enfants qu'on ne dit pas du mal du voisin, surtout qu'on ne va pas dénoncer, etc. Tous ces tabous-là sont au contraire franchis, mais non pas franchis par le public, ils sont franchis par le public en accord avec le contenu médiatique. Donc, je crois que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que la transgression, c'est pas tout à fait nouveau hein, d'ailleurs, mais c'est que la transgression est un ingrédient du marketing des industries médiatiques. Et donc, il n'y a pas cette idée qu'il pouvait y avoir dans les années 70 d'un affranchissement personnel vis-à-vis de normes sociales trop prégnantes et d'une transgression donc de tabous d'une société traditionnelle par la consommation de contenus qui seraient des contenus rebelles, etc. Moi, ce que j'ai observé, c'est pas ça. C'est plus, du coup, on est plus sur un brouillage des repères.
FPP 106.3 FM, maîtriser les écrans. Un colloque du 30 avril 2014 en mairie du 19e. Nous venons d'entendre Sophie Géhel. Donc, qui nous indique que nous tous et les enfants et les adolescents en particulier sont des belles cibles pour les forces économiques, pour les forces médiatiques, et qu'on a tout intérêt à les faire réfléchir à la chose. Nous avons interrogé deux personnes qui sont aux côtés des enfants. Loïs Bonneau, professeur de lettres classiques, blogueur, donc je le disais au début de l'émission, sur lavimoderne.net, donc qui est en charge de classe d'adolescents. Et par la suite, nous écouterons également Héloïse Join, psychologue en crèche. Loïs Bonneau s'interroge et nous apporte son point de vue sur la question des images et des écrans en lien avec l'école et les apprentissages, tandis que Héloïse Join, donc, nous met en garde sur l'utilisation des écrans pour les tout-petits avant 3 ans.
Bonjour, Loïs Bonneau, professeur de lettres classiques et blogueur sur lavimoderne.net.
Vous semblez être plutôt contre l'arrivée des écrans au sein des écoles. Comment expliquez-vous aux élèves que vous-même vous êtes féru de travail sur informatique et d'écrire même sur des blogs et que vous ne leur offrez pas éventuellement cette possibilité?
Je suis certain que dans plein de disciplines, par exemple les langues vivantes, je ne sais pas trop comment on peut se passer du MP3 aujourd'hui ou des vidéos. En histoire géo, on peut faire utiliser des cartes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais nous, en français, en lettres, ce n'est pas très utile. C'est très périphérique, très secondaire. Et même, ça devient une source de nuisance en réalité, voire de dévastation pour ce qui est du travail à la maison, par exemple, puisque les élèves, maintenant, vont sur des sites où ils vont trouver des résumés d'œuvres, des corrigés, qui font que ça nous empêche de travailler, de faire notre travail correctement. L'éducation aux médias, je la fais de manière très informelle, en classe, à l'occasion, je sais pas, d'une digression. Voilà. Je ne suis pas certain du tout qu'on doive prévoir des cours d'éducation aux médias, de confrontation, etc. Je pense que tout professeur sensé est capable de faire des références, de montrer qu'il n'est pas en dehors du monde. On le fait en permanence. Il n'y a pas besoin de le formaliser à mes yeux. Par contre, un enseignement qui permettrait à des élèves d'être des lecteurs accomplis, de savoir écrire, ça c'est la meilleure formation possible, avec une culture, une autonomie de pensée, ça c'est la meilleure formation possible pour aborder le monde numérique. Sinon, c'est les plonger dans un univers, c'est comme, je sais pas, vous apprenez la piscine, vous apprenez à nager dans une piscine, vous n'apprenez pas à nager en pleine mer. Mais là, c'est ce qu'on nous propose de faire.
Je parle de l'image et la possibilité d'analyser l'image.
Alors l'image, c'est dans les programmes, hein, bien sûr. Justement, c'est un peu rentré dans les programmes depuis 1995-96 dans les programmes de français. Je considère que c'est pas mon métier. Moi, je travaille sur le texte. L'image, c'est quelque chose qui m'est profondément étranger. Je suis incompétent. Je suis pas capable de le faire, et on me demande de le faire. Et encore plus maintenant avec l'histoire des arts, par exemple, au collège. Donc, je suis pas compétent. On peut me faire faire ce métier, mais je le ferai mal.
Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, d'autres professeurs, ou qu'il pourrait être intéressant que des professeurs ou des intervenants travaillent sur cette question-là au sein des établissements?
Ah oui, j'ai pas d'interdiction. À partir du moment où il y a quelqu'un qui se sent compétent pour le faire ou qui a la compétence institutionnellement par un diplôme, c'est parfait, c'est très bien, au contraire. Et l'image, elle a une grammaire spécifique, hein, bien sûr. Moi, je suis un grand fan du site Arrêt sur Image. Ça fait longtemps que j'aime bien étudier ces décryptages, tout ce qu'on peut faire subir aux images, je trouve ça très intéressant. Mais je ne suis pas spécialiste de ces questions. Pourquoi pas? Oui, ça peut être un enseignement qui peut être intéressant, mais je ne vois pas des heures qui seraient attribuées par semaine à un tel enseignement. Je trouverais ça tout à fait inutile.
Après Loïs Bonneau, on écoute Héloïse Junier, donc, qui travaille avec les tout-petits, les moins de 3 ans.
Donc, je m'appelle Héloïse Junier, je suis psychologue en crèche et journaliste spécialisée en presse écrite. Et donc, cette question que j'aborde moi spécifiquement aujourd'hui, ça concerne les 0-3 ans, donc les jeunes enfants, sachant que mes collègues et confrères conférenciers ont abordé des âges un peu plus avancés.
Pour quelles raisons vous êtes intéressée à la question des écrans par rapport aux tout-petits?
À force de voir les parents, justement, de rencontrer les parents et d'écouter leurs discours, qui peuvent être assez alarmants et alarmistes par rapport à la consommation des écrans de la part de leurs tout-petits et puis des aînés également. Donc c'est vraiment au gré de la clinique et d'observation en tant que psychologue que je suis venue à cette question et qu'aujourd'hui j'essaie de me mobiliser et de faire beaucoup de prévention sur le terrain notamment. Et je pense que la prévention passe aussi par ce type de rencontres, de conférences, où on va devant des familles, devant des enseignants également. C'est vrai que les écrans sont confrontés à deux grandes idées reçues, notamment première idée reçue, l'écran rendrait intelligent, viendrait éveiller, stimuler intellectuellement l'enfant. C'est souvent le discours que je rencontre, notamment dans les milieux un peu plus défavorisés, où les parents sont vraiment persuadés que l'écran va réveiller leur enfant, le rendre plus intelligent, et qui va venir quelque part se pallier à une éducation qui serait à la maison. Ça arrive dans les milieux assez défavorisés. Il y a aussi le fait que l'écran occupe beaucoup l'enfant, et qu'un jeune enfant, ça peut être très chronophage, c'est épuisant pour un parent. Et l'écran vient faire office de babysitter et capter, hypnotiser l'enfant pendant que le parent va qu'à ses occupations. C'est vraiment les deux enjeux que j'ai pu remarquer sur le terrain.
Est-ce qu'effectivement, les parents ont forcément tort de penser que les écrans puissent mobiliser l'intelligence et puissent être bénéfiques pour leur enfant?
Alors, il n'est pas totalement néfaste, effectivement, de penser que l'écran peut être un objet d'éducation, on va dire, ou un médiateur dans l'éducation de l'enfant. Mais là, comme il s'agit davantage, en tout cas pour ma part, d'enfants âgés de moins de 3 ans, c'est pas forcément le contenu de l'écran qui peut déranger, mais plus le contenant, à savoir plus le média en lui-même, c'est-à-dire un média qui bombarde l'enfant de stimulation, qui l'habitue à des stimulations qui sont très importantes et qui absorbe toute cette capacité d'attention involontaire. Et l'enfant a plus de difficultés après à mettre son attention sur des objets plus sans saveur, plus neutres. Donc ça pourrait être un objet d'éducation, l'écran, si l'enfant était déjà un peu plus âgé. Mais l'enfant, le jeune enfant, en tout cas de moins de 3 ans, et surtout de moins de 2 ans, a vraiment besoin d'interaction dans la vraie vie, a besoin de peser des objets réels pour faire la différence entre les poids, a besoin de vraiment d'être dans la vraie vie de manière générale, ce que l'écran ne permet pas forcément.
Vous avez employé le mot interaction, justement, de quoi il s'agit quand on parle d'interaction ? Le média tout seul ne peut pas faire office d'interaction à lui tout seul ?
Effectivement, des fois, on vante les mérites d'une tablette qui est dite interactive, mais elle est dite interactive, mais c'est vraiment à l'heure dans le sens où l'enfant est en interaction avec un robot, finalement. Donc, c'est une interaction qui n'est pas dans la vraie vie, qui n'est pas favorable à cet apprentissage, à sa découverte du monde, finalement. Il est vrai que l'intelligence des jeunes enfants, elle passe par le sensorimoteur. Donc, d'ailleurs, on parle d'intelligence sensorimotrice. Et l'enfant a besoin de découvrir l'environnement par ses sens, donc par tous ses sens. Et il faut une variabilité des stimulations pour permettre justement à cet enfant-là de développer ses sens de manière fine et approfondie. Et aussi par la motricité. Donc, l'enfant a besoin d'éprouver son corps, ses capacités motrices. Il a besoin de courir, il a besoin de sauter, il a besoin de prendre une girafe dans la main, il a besoin de la toucher, il a besoin de tout ce qui est motricité fine et motricité globale. Ce que ne permet pas la tablette. Par exemple, si vous avez sur une tablette une girafe, sur une autre tablette un ours en plus, et ben finalement, ça aura toujours le même poids, ça aura toujours la même sensation au niveau tactile, il y aura toujours la même vision finalement de l'engin, sauf qu'il y aura juste une image qui changera, ce qui est très pauvre en termes de stimulation, notamment au niveau moteur, mais au niveau sensoriel également. Alors, il est vrai que les parents sont prêts à suivre les recommandations, mais cela dit, c'est toujours de manière assez fragile, je trouve, parce que les parents ont un usage des écrans, d'ailleurs, qui est déjà important parfois. Donc, commencer peut-être par éduquer les parents avant d'éduquer les enfants, parce qu'on ne peut juste pas les atteindre sans parler d'abord aux parents. Donc déjà, voilà, l'usage des parents peut être un peu compliqué par rapport aux écrans, ce qui, nous court-circuite dans notre possibilité d'action en tant que professionnel. Alors, avec les parents, en consultation, j'ai pris l'habitude de leur demander combien de minutes par jour leur enfant est exposé aux écrans, et je remarque que les parents sont très souvent surpris de faire le cumul de la journée, c'est-à-dire quand on additionne, je ne sais pas, par exemple les 20 minutes de tablette dans la voiture le matin pour aller à la crèche, puis les 45 minutes pour le chemin du retour, les 1h30 de télévision avant que les parents préparent à manger, quand on met tout bout à bout, finalement les parents sont surpris de voir quelle ampleur ça peut avoir au quotidien, et je remarque qu'ils sont très souvent, même les milieux très, très favorisés, ils sont souvent désinformés, ou en tout cas pas informés des risques de cet écran sur leurs enfants. Pourtant, ce sont les principaux acteurs, les principaux concernés. Mais il y a une vraie désinformation du grand public.
Vous pouvez rappeler en 3 mots d'éventuels risques qu'il peut avoir sur les écrans et quelques conseils ?
Alors, regardez les écrans donc avant l'âge de 3 ans. Donc même les programmes qui sont présentés comme conçus pour les moins de 3 ans, parce qu'il ne faut pas croire, les marketeurs, ils ont vraiment un enjeu qui est 100% commercial, et on comprend, c'est un autre métier. Ça peut entraîner différentes difficultés. Après, ça dépend aussi du nombre d'heures par jour, hein. C'est toujours très aléatoire, mais ça peut entraîner des difficultés de sommeil, d'endormissement, des troubles du sommeil, aussi des troubles de l'alimentation. Au niveau du repas, ça peut également entraîner des troubles de la concentration, de l'attention, ça peut entraîner aussi beaucoup d'agitation la journée pour l'enfant, puis aussi une dépendance aux écrans. C'est-à-dire que l'enfant sera habitué à des décharges de stimulation très importantes que lui offriront pas, par exemple un livre, même un livre de Tchoupi, même une petite moto, voilà, parce que ce sont des stimuli sans saveur, par définition. Donc ce que je préconise aux parents, alors souvent je lance un défi aux parents quand je les sens assez réceptifs, c'est-à-dire d'enlever les écrans de la vie de leur enfant pendant 3 semaines, 1 mois. Certains jouent le jeu, d'autres ne jouent pas le jeu, parce que c'est quand même très compliqué. En tant qu'adulte, on a aussi un enjeu affectif énorme avec ces écrans. Mais sinon, je préconise surtout pas d'écran le soir, ça c'est évident. Au moins 2 heures avant de se coucher, pas de contact avec l'écran. Pas d'écran notamment au moment du repas. Et puis pas d'écran avant 3 ans, si c'est possible.
Pour être un peu polémiste, comment on repère que les causes de l'anxiété ou les causes de l'agitation avant le sommeil ou les causes de nutritif peut-être sont par exemple liées aux écrans et ne pourraient pas être liées, on l'a bien dit, on le dit souvent, à un contexte familial.
Et après, il y a tout un tableau, on va dire, de la famille à restituer. Et après, on essaie de pondérer chaque facteur. Est-ce que le facteur écran, imaginons l'enfant regarde 2 heures d'écran avant de dormir, ce qui m'est arrivé encore avant-hier. Et là, on voit pas le lien avec la difficulté d'endormissement. Il y a quand même, on peut dire quand même, il y a un lien. Après, c'est quand on annulera l'écran, on verra en fait quels sont les bénéfices sur le terrain. Est-ce que quand on allume l'écran, finalement, l'enfant a moins de mal à s'endormir ? Est-ce qu'il a un sommeil qui est plus réparateur ? Est-ce qu'il est moins fatigué le lendemain ? Voilà, c'est différentes en fait, manières d'investiguer la famille qui peut nous permettre de faire un lien de causalité plus ou moins directe avec les écrans, sachant qu'on n'est pas dans un laboratoire de psychologie, donc effectivement, il y a des variables qu'on ne peut pas maîtriser.
Yo, si tu pouvais t'asseoir devant la télé et regarder de la merde toute la journée, tu le ferais ? Ou tu laisserais tomber ? Yo, tu allumes ta télé, tu te tapes le gîte et tu dis que ce qu'il disait est vrai. Mais c'est pas vrai, tu t'en fous, tu zappes sur le foot, t'en as rien à branler, mais tu regardes, c'est la loi de la télé, tu t'y feras, tu verras. Endors-toi, tu veux TF1, France 2, France 3, même si c'est là pour toi, pour 15 euros par mois, tu peux avoir des centaines de chaînes que tu regarderas pas. Fais gaffe, là, le juste prix, oh, et la roue de la fortune, oh, qui veut gagner des euros, les pubs, la météo, Lost, les Sopranos, le JT de Jean-Pierre Pernaut, qu'est-ce qui suce ton cerveau quand tu rentres du boulot, toi t'aimes Koh-Lanta, t'aimes Desperate Housewives, quand tu reviens dans ton mobile home, tu zappes la télé, te contrôle, tu sais que c'est nul, mais bon, quand même, tu vas rester regardé un peu, jamais, tu vas juste perdre ton temps à regarder la télé, c'est pas vrai, même la pub t'a hypnotisé, hey, zappes de Drucker, Harrison, Akko, et c'est là pour que tes neurones sont en train de griller, tu vas juste perdre ton temps. La télé, c'est pas vrai, même la pub t'a hypnotisé. Hey, ça fait TF1 à M6, à l'équipe TV. Jusqu'à quel point tu penses encore pouvoir tomber? Toujours là pour ton chef et pour Masterchef. Je les regarde avec du popcorn et du concord. Enfin bref, j'ai vu les Star Trek, j'ai vu les Stargate, tous les Will and Grace, les Friends et les Melrose Place. Mais je m'attends pas que des séries, pas que des vraies personnes. J'adore les Looney Tunes, South Park et les Simpsons. Les scénaristes sont brillants, ils ont tout compris. On regarde des personnages vivre à défaut d'avoir une vie. Je voulais faire la Star Trek, mais j'ai eu trop le trac. Je voulais faire nouvelle star, ils aiment pas mon répertoire. Je voulais faire pop star, je suis pas assez ringard. J'ai pas tenté X Factor, je me respecte encore. Ils m'ont capturé, ils m'ont téléchargé, ils m'ont chargé télé, ils m'ont audimaté, ils m'ont sabatié. Mon Sébastien Coé, à grand coup de LCD, je me suis fait téléviser. Tu vas juste perdre ton temps à regarder la télé, c'est pas vrai, même la pub t'a hypnotisé. Hey, plus pour EDF, pour McDo, pour le dernier CD de Cali, quand la télévision se fait à déconner. Tu vas juste perdre ton temps à regarder la télé, c'est pas vrai, même la pub t'a hypnotisé. Hey, tu tapes de XXL à MTV, à Pink TV, tu explores les multiples facettes de la vulgarité. De place dans ma tête pour les maths, le grec, le français, de la géo, la physique ou la svette. Certes, je ne connais que des mots de moins de 6 lettres. Faut dire que ma culture, je l'ai acquise dans les maisons de Secret Story, Star Academy, 15 Minutes Inside, puis My Ryan MTV, House avec Lori, 24 avec Kiefer. Je parle mieux anglais que français, c'est compliqué. Faut dire que j'ai plus de vie. Trace le lundi, des spotos, mardi, mercredi, joue matin, petit, est presque parfait, jeudi. Sur Directstar, j'enregistre le live, vendredi, je pars en live, samedi, je me casse à l'divertis, je me fais un ciné-cinéma, parce que c'est aussi ça, musique et cinéma. La télé a des droits sur tout ce qui ne bouge pas. Désolé, tu as des idées, mais tu vois, ton compte en banque, suis pas. Tu passes à Fedora et Anna Montana, Lady Gaga, Rihanna, dans cet univers-là. Si tu veux être original, faut te lever de bonheur, te donner corps et âme, et t'attendras ce qu'en face, on balance dans la face. Désolé monsieur, vous n'êtes pas à votre place, vous êtes une menace pour l'abrutissement des masses. Allez, rentre donc chez toi, la télé c'est comme ça, quand t'es dedans tu meurs, quand t'es devant tu ne fous pas. Tu vas juste perdre ton temps à regarder la télé, c'est pas vrai, même la plus pas hypnotisée. Tu vas du cinéma, du sport et des actualités, tu as oublié que t'avais une famille à aimer. Tu vas juste perdre ton temps à regarder la télé, c'est pas vrai, même la plus pas hypnotisée. Téléachat, les ordres de publicité, à mon avis c'est toi qu'on essaie d'acheter. Tu devrais penser à éteindre ta télé, mec.
FPP 106.3 FM, nous sommes toujours sur l'émission Rendez-vous citoyen. Ne pensez pas le contraire, nous sommes bien sur une émission qui parle de maîtriser les écrans. Pour terminer cette découverte du colloque, du colloque du 30 avril 2014 en mairie du 19e sur la question de maîtriser les écrans et l'utilisation des écrans par les enfants et les adolescents, nous allons écouter Christian Gautelier, président du collectif d'associations Enjeux Immédiats et responsable au sein des CEMEA du pôle Média, Éducation Critique et Citoyenneté. Alors, pour Christian Gautelier, il s'agit en fait, face à cette avalanche d'écrans et d'images avec lesquels nous tous, et au premier chef les enfants et adolescents, nous sommes en contact à haute dose, de proposer à l'école, mais également au secteur de l'éducation populaire, au périscolaire et à tous ceux, finalement, qui s'occupent de près ou de loin de la question éducative auprès des enfants, les parents donc aussi, de développer donc avec eux une réflexion critique sur les écrans et les médias, une véritable éducation à l'image, mais également d'offrir la possibilité de s'essayer à la production d'images. Tout cela finalement afin de développer une approche véritablement active et critique, encore une fois, devant les écrans. Pour cela, il prône donc un véritable plan de formation finalement qui concernerait aussi bien les professeurs, mais également les éducateurs, les animateurs ou intervenants du périscolaire et les parents. Un gros travail en perspective donc.
Christian Gautelier, je suis président d'un collectif d'associations qui s'appelle Enjeux Immédiats, qui rassemble trois grands réseaux d'éducation populaire, les CMEA, les Franca, la Ligue de l'Enseignement et la plus grande association de parents d'élèves, la FCPE. Voilà, et donc moi-même, dans une de ces organisations, parmi mes différentes activités, j'ai en charge le département sur la question des jeunes, des médias, de l'éducation critique et de la citoyenneté.
Comment vous expliquez que, il me semble en tout cas, qu'on est si pauvre en éducation de ce type aujourd'hui en France et peut-être en Europe, alors que les images sont là quand même depuis un siècle pour le cinéma, et puis 50 ans pour d'autres, et puis le web depuis 20 ans?
C'est-à-dire que la culture de l'école est complètement opposée à la culture de l'image, des dimensions fictionnelles, etc. Donc on le voyait pour la télévision, pour le cinéma, historiquement. Donc c'était difficile de faire pénétrer dans l'école les dimensions de l'image comme soit objet de savoir ou comme à un moment donné aussi vecteur d'apprentissage. Donc il y a eu toujours cette ambivalence, ce qui fait que les personnes qui portaient cette vision-là, c'était plutôt des militants et donc c'est resté assez marginal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est quand même de faire rentrer, c'est-à-dire de permettre qu'au sein de l'école, des adultes puissent travailler sur les pratiques médiatiques des jeunes. Si on laisse les pratiques médiatiques des jeunes en dehors de l'école, qui va s'en occuper? Avec qui les jeunes vont avoir un dialogue ou une interface de discussion, d'échange un peu critique, si ce n'est entre eux? Les parents sont assez démunis par rapport à la complexité de la consommation médiatique de leurs enfants. Donc voilà, donc pour nous, il est extrêmement important qu'à l'intérieur de l'école, on saisisse de ces questions-là et en partant des pratiques réelles des jeunes.
Est-ce que ça veut dire alors, que les professeurs s'emparent de cette possibilité de réfléchir sur les médias et sur les images avec les jeunes? Est-ce que c'est des interventions qui doivent arriver de l'extérieur? Est-ce qu'il doit y avoir de la formation? Comment vous voyez ça?
En fait, on n'a jamais défendu le fait d'introduire une discipline supplémentaire. Il faut que ça soit pris en charge de manière transversale. Moi, je pense qu'il faut utiliser tous les leviers. C'est-à-dire, faut que ça soit à l'interne, avec la formation des enseignants. Il faut que ça soit dans des logiques de partenariat. C'est intéressant aussi de faire venir des professionnels des médias, travailler avec des journalistes ou avec des gens qui font des émissions. Donc voilà, je pense que vu l'urgence et l'enjeu de massification, il faut mobiliser, alors certes de manière un peu cohérente et dans le cadre d'un projet global, mais ça fait partie des enjeux de ce qu'on appelle aujourd'hui les projets éducatifs de territoire, par exemple, de concevoir, c'est-à-dire de mobiliser sur une question éducative importante l'ensemble des ressources qui peuvent exister au sein d'un établissement, mais aussi dans son environnement.
C'est pas toujours facile d'apporter ça au sein des collèges, des écoles.
En fait, introduire l'éducation aux médias au sein des établissements, c'est la double difficulté. Celle que j'évoquais tout à l'heure, que vous évoquiez, c'est-à-dire de poser la culture de l'imaginaire, de l'image, comme étant une culture aussi intéressante que la culture de l'écrit, plus littéraire, plus traditionnelle. Mais en même temps, en fait, introduire de l'éducation aux médias, c'est poser quasiment poser des modalités d'innovation au sein de l'école. D'ailleurs, on voit souvent les enseignants qui sont porteurs de projets sont souvent des innovateurs. Ben, pourquoi ? Parce que pratiquer les médias au sein de l'école, bon, ben, c'est travailler sous forme de dynamique de projet, souvent avec de la production. Donc ça nécessite des temps d'organisation qui, en fait, font obligatoirement éclater le modèle traditionnel, une heure, une classe, un prof. Donc, alors faut soit travailler en équipe, soit faut travailler sur des temps de 3 heures ou des temps plus longs. Donc, automatiquement, on est confronté à faire bouger l'école, à mettre en place des dispositifs plus innovants, etc. C'est pour ça que, dans le cadre de la refondation de l'école, on s'est beaucoup battu pour faire l'articulation de promouvoir une éducation aux médias systématique au sein des écoles. Et refondation de l'école, parce que en fait, il y a une corrélation entre les deux.
Il y a une attaque un peu aussi des professeurs, enseignants depuis des années, de dire on n'est pas sur les fondamentaux, on n'est pas sur. Et là, de nouveau, peut-être en abordant ces questions des médias, on va de nouveau nous faire travailler sur des objets insaisissables.
Bah, c'est-à-dire que faut repérer les fondamentaux au XXIe siècle. Demain, les jeunes, y compris en termes d'employabilité, ils vont avoir à se mouvoir et travailler dans ces environnements numériques. Et dans ces environnements numériques, on ne leur demandera pas d'être que des consommateurs d'informations ou de contenus. On va leur demander d'être capables d'enrichir des contenus, d'être capables de faire des recherches, du tri, de produire de l'information. Donc voilà, donc ça, c'est des compétences fondamentales au XXIe siècle et dans les métiers à venir. Donc voilà, les mises en place de projets d'éducation aux médias va mettre en jeu l'ensemble de ces compétences. On est quand même au cœur des différentes lectures, sauf que c'est plus que les lectures traditionnelles, c'est les lectures d'images, c'est les lectures d'environnement multimédia. Donc on est sur des apprentissages fondamentaux, mais d'une école du XXIe siècle, effectivement, qui doit bouger par rapport à ça.
Une dernière question. On a parlé beaucoup d'école. Là, j'ai entendu aussi dans votre intervention que vous élargissiez la nécessité d'impliquer la réflexion sur les médias avec la jeunesse dans l'école, mais aussi hors l'école, dans tout ce qui est de l'éducation populaire.
Oui, c'est ce qu'on appelle un peu un continuum éducatif. En plus, les pratiques médiatiques des jeunes, elles sont principalement hors de l'école. Donc voilà, donc il faut créer ce continuum. L'école, en tant qu'espace formel, elle a son rôle à jouer. Mais toutes les structures éducatives ou lieux ou temps de vie des enfants et des jeunes vont être confrontées à ces pratiques numériques des enfants et des jeunes. Donc elles doivent, elles aussi, avoir réfléchi comment elles les intègrent dans leurs projets culturels, même sportifs. Je pense qu'il faut absolument associer les parents, puisque les parents ne sont pas désintéressés, ils peuvent être un peu démunis, donc il faut soutenir les parents dans leur rôle d'éducateur vis-à-vis des écrans, et surtout que les parents comprennent éventuellement les projets qui vont être mis en œuvre, notamment à l'école. Voilà. Et donc il faut que l'école associe aussi les parents. Donc effectivement, une mobilisation générale compte tenu de l'enjeu. Voilà, faut coéducation, mobiliser un peu tout le monde. Mais donc voilà, donc ça demande une coordination, peut-être des espaces. Nous, on prône des espaces de formation communs où on pourrait avoir en formation sur ces questions-là aussi bien des enseignants, un éducateur de rue, un animateur et un parent. Du coup, ça pose d'emblée que l'école est un espace principal, mais c'est pas le seul. Donc il y a d'autres adultes qui ont un rôle d'éducateur vis-à-vis des enfants et des jeunes. Donc voilà, comment on travaille ensemble avec les spécificités des uns et des autres, mais en complémentarité.
Merci Christian Gautelier, merci Jacques Brodeur, Anne Lefebvre aussi, merci Lamine Mouldaya, merci Sophie Géel, merci Loïs Bonneau, merci Héloïse Junier, qui se sont prêtés à notre interview donc à l'occasion du colloque du 30 avril 2014 sur la question de maîtriser les écrans auprès des plus jeunes enfants et adolescents. Mais nous tous, nous sommes concernés. Nous l'avons bien vu au cours de cette émission. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur colloque 30 avril 2014 paris.educpax.org. Vous pouvez aussi réécouter l'émission sur radionomade.over-blog.fr. Et salutations à RFPP 106.3 FM. Merci beaucoup, Gabriel Fontaine à la technique. Et moi-même, je vous salue, Marc. Ciao.